Bonjour, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage de France Inter.
Cette semaine avec les Portugais exilés de la dette dans une France entre McDo et Carrefour.
En direct du studio 611, Comme un bruit qui court est réalisé par Jérôme Chélius, assisté de Karen Deher.
Il y a de la contestation dans l'air. Hier, c'était jour de grève au Portugal. Toute la journée, hôpitaux, écoles, services sociaux et tribunaux tournaient au ralenti. Et les fonctionnaires, exaspérés par 4 ans de rigueur budgétaire, étaient dans la rue avec des pancartes proclamant 35 heures pour tous, augmentation salariale, non au licenciement. Enfin, ceux qui manifestaient, et c'est eux, étaient ceux qui n'ont pas été obligés de partir en exil pour trouver du travail sur les traces de leurs parents, partis 40 ans plus tôt, souvent en France. Au McDo, les conditions de travail, c'est pas la panacée. Et pour les employés syndiqués, c'est d'autant plus difficile à accepter quand ils apprennent que l'entreprise fait tout son possible pour échapper à l'imposition. Une optimisation fiscale agressive pour toujours plus de déficit social. Une plainte a été déposée contre X pour blanchiment de fraude fiscale. Et ensuite Gironde, on se mobilise contre l'installation en milieu rural d'une grande surface du groupe Carrefour. Crainte pour les commerces de proximité et les emplois. Opposition à un modèle de consommation aussi qui a fait florès aux abords des villes et des ravages dans les centres-villages. Les porteurs du projet préfèrent croire en une nouvelle vertu de la grande distribution, désormais au service du vivre ensemble. Je vous disais qu'il y a comme de la contestation dans l'air.
On a en France 36 000 communes, il y a 18 000 communes qui n'ont plus un seul commerce de proximité. On avait au sortir de la guerre 6 millions de paysans, il reste 300 000 agriculteurs et il en disparaît 30 000 chaque année.
Ici aussi en France, bien entendu, il y a la crise, c'est vrai, mais on arrive, on s'en sort mieux que là-bas.
Au vu des éléments établis par le rapport, il s'agit bien évidemment d'une évasion fiscale qui dépasse les 1 milliard d'euros pour l'Europe.
Putain.
Ah oui, non, moi je suis anti-bruit qui court. Non, mon mari est plus concierge que moi, vous voyez.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
La maxime du gourou américain de la grande distribution, Bernardo Trujillo, qui a inspiré nos capitaines d'industrie, précurseurs de la grande distribution, n'a pas pris une ride. Avec les produits d'appel, faites un îlot de pertes dans un océan de profits.
Micmac au pays du Big Mac, après le scandale LuxLeaks, encore plus d'optimisation fiscale agressive avec le géant McDonald's, qui échappe à plus d'un milliard d'euros d'impôts grâce au Luxembourg.
Nous jouons donc à saute frontière cette semaine. Tout comme les profits des multinationales et les groupes de la grande distribution, les travailleurs portugais sont délocalisés en France au nom de la saine concurrence. Et c'est avec eux que nous allons commencer cette heure, dans leur pays en crise que nous avions traversé il y a 2 semaines, et jusque chez nous en France, où ils sont de plus en plus nombreux à venir se faire une place. Alors Big Mac, Carrefour Contact et France-Portugal aller-retour, comme un bruit qui court, une heure, dans tous les sons et tous les sens.
Antoine Chao.
Anaël Verzo.
Guy Manquedil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Política de privatizações em Portugal será criminosa nos próximos anos.
A privatização da TAP vai ser um negócio péssimo para o governo português.
Não tapa os olhos, foi impulsionado pelo cineasta.
O Ombudsman pode ser grande economista por compreender o que é que se passa. Se passa as mesmas coisas de Portugal. C'est un modèle qui est pour continuer à développer.
Simplement ici, c'est aller beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus visible parce que c'est un petit pays aussi.
Oui, c'est les périphéries, Portugal, la Grèce, mais c'est un modèle qu'ils veulent continuer.
Pourquoi les Français ont-ils intérêt à s'intéresser à ce qui se passe au Portugal ?
Bah, ils ont intérêt à s'intéresser parce que ce sont les mêmes politiques qui sont en train d'être appliquées en France.
Je suis de la génération sans rémunération. Et je me suis faite à cette condition. parva que eu sou. Quelle conne je suis.
Et en plus de ça, il y a un véritable exil de toute une génération.
D'une génération qui procure autres conditions dans d'autres pays.
Qui cherche une situation un peu meilleure,
mais qui acaba pour émigrer
en émigrant à l'étranger.
À tel point que le Premier ministre avait dit partez, c'est bien, allez-y, bougez-vous un peu.
Oui, oui.
Faites comme dans les années 60, les Portugais qui étaient partis, bah faites pareil.
É uma geração sacrificada,
oui, c'est une génération sacrifiée, oui.
Je suis de la génération, moi je n'en peux plus.
Que esta situação dura tempo demais.
Et cette situation a duré trop longtemps. Et je ne suis pas une conne. Et je me dis... que le monde est tellement con que pour être esclave, il faut avoir fait des études.
Uma tristeza. Os jovens precisavam de trabalhar, eles andam a estudar, e a gente diz estuda, para quê? Para quê? Para depois ficarem parados, não terem emprego, não terem nada, ou então irem para fora.
Pour les jeunes, c'est terrible parce qu'eux, ils doivent partir. Ils étudient, on leur dit étudier. On passe notre temps à leur dire d'étudier. Et puis en fait, ils sont dans l'obligation de partir. Moi, je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Je ne sais pas ce qui va se passer.
C'est l'avenir qu'on est en train de détruire. Voilà.
Tudo é economia. A geração de riqueza. Tudo é economia.
Ça suffit.
Ça suffit l'austérité.
Ça suffit. Ça suffit. Hein. Dictature de marché, dictature des riches, des puissants et des banquiers, voilà. Pour arrêter, il faut dire non. Voilà. Vraiment incroyable.
Le monsieur pas content sur la place de Lisbonne parlait de dictature, et normalement une dictature politique fait des exilés politiques. Or ce qui se passe aujourd'hui au Portugal, ce sont des exilés de la dette qui sont provoqués par cette dictature de l'austérité. La dette qui a remis les Portugais sur les routes de l'exil, le même chemin que leur père ou grand-père avait emprunté dans les années 60. Et le Portugal, c'est pourtant le bon élève de la Troïka qui applique depuis 2011 la thérapie de choc du plan d'austérité concocté par la Troïka à la lettre. Bientôt 4 ans de ce régime de rigueur et 71 000 postes de fonctionnaires supprimés, baisse de salaire jusqu'à 20% pour les hôtes, horaires à rallonge, privatisation massive, recul des protections sociales. Mais ça marche, nous disent les autorités portugaises. 1,5% de croissance attendue. Réduction des déficits publics. Reste que la dette a encore augmenté davantage et passé de 100 à 130%. Mais le chômage a baissé de 3 points en 2 ans, nous disent les mêmes politiques. Plus que 13,4 points aujourd'hui. Une victoire, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'autre politique et que ça marche. Sauf que les Portugais sont à nouveau sur les routes. Ils arrivent en France et partout ailleurs, près de 120 000 qui quittent leur pays comme leurs prédécesseurs. Cette année en France, ils étaient d'après l'INSEE, en 2012, pardon, c'est puisque les chiffres mettent du temps à arriver, ils étaient les plus nombreux des étrangers à arriver en France. Et c'est donc eux qu'on va retrouver, eux ces exilés de la dette, qui ont dû fuir leur pays, il n'y a pas plus de 2-3 ans, fuir la crise et les politiques d'austérité. Certains s'appellent sur les réseaux sociaux les Tugas en Paris, les Portugais de Paris. Portugais à Paris, le retour, chassé-croisé par tant de crises, comme un air de déjà-vu.
Moi, je suis arrivé hier, en 1969. J'ai décidé de venir chercher, effectivement, une vie meilleure. Et donc, je suis arrivé en 69 et depuis, je suis toujours là.
Et voilà qu'arrive une nouvelle vague.
126 000 en 2012, c'est le chiffre le plus important. Ils viennent pour travailler. Ils veulent changer de vie, ils viennent pour travailler.
Tu traverses le four rouge à droite et tu prends la ligne 9 et puis là.
Bon, c'est pas exactement les mêmes instructions que je vais suivre.
pour poursuivre notre reportage. Ah, je reçois un premier SMS. J'ai chez Gamos, nous sommes arrivés. C'est Mario. Comme ils ne connaissent pas très bien le coin, puisqu'ils sont fraîchement arrivés, on s'est dit qu'on se donnerait rendez-vous dans un café portugais. Alors là, c'est pas là. Le Clos Bourguignon, c'est pas nous. Pizza San Giorgio, c'est pas nous. Ça y est, Paris Madère. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Yves. Ça c'est Ed.
Yves. Rose.
Enchanté.
Oh ben on va vous donner une meilleure place que ça, monsieur.
C'est
monsieur là, à la table.
C'est gentil.
Ricardo.
Ricardo va s'occuper de nous. Ça va bien?
Oui, oui, merci.
Très bien, merci.
Alors pour la dame, Pascal ou Margot d'Espère? Normal, zéro ou light?
Normal.
25, 50.
Bon, on est presque au Portugal là, ce soir, dans le décor, non? Avec les décorations.
On n'est pas dépaysés.
Et alors, comment je présente?
Mon nom c'est Ventura, Mario. Je suis en France depuis 2 ans et demi. Et maintenant je suis électricien ici.
Alors moi je m'appelle Sophia, je suis née en France. Mes parents sont des immigrés déjà des années 70. Ouais. J'ai décidé d'aller vivre au Portugal parce que j'ai toujours le Portugal dans mon cœur. J'y suis restée 10 ans. Malheureusement, j'étais obligée de revenir. La crise, elle a tapé très fort.
Et alors maintenant je vous ai pas présenté aussi.
C'est pas grave. Je m'appelle Rosa Almeida. Et avant de venir en France, j'habitais à Porto. Ça fait 2 ans et demi que je suis arrivée et je ne regrette pas. Parce qu'avant de venir, j'avais 2 boulots pour avoir l'argent. Parce que j'étais serveuse dans une boulangerie-pâtisserie de 13h à 21h. Et après, je sortais de là, je me changeais et je travaillais dans un bar le soir. Et je touchais 2,50€ de l'heure. 2,50€ de l'heure. Et c'était au noir, c'est normal. Et quand on a besoin, c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Comme j'ai divorcé, je voulais changer de vie. Bon, j'étais là tout seul et je suis venue sans rien. Je ne regrette pas.
Hein. Et vous faites quoi comme boulot ici?
Ici, à ce moment, ça fait depuis janvier que je travaille chez Isis Medical. Je suis responsable du stock. Et quand je suis arrivée en France, je faisais la même chose que presque tous les portugais. Quand on arrive en France, on ne sait pas parler. On fait le ménage.
Vous ne saviez pas parler avant d'arriver? Là, ce français-là que vous parlez, c'est en 2 ans que vous avez appris?
Oui, parce que j'ai la volonté d'apprendre. Et c'est vrai que quand on arrive en France, on ne sait pas parler. Pour faire le ménage, on n'a pas besoin de parler. Pas besoin. Et on fait le ménage. Et à ce moment, je gagne le SMIC, parce que c'est un nouveau boulot. Dans cette société, ça fait 2 mois. Et je fais tout ce qu'il faut faire. Même changer le carrelage. Il y a quelqu'un qui est venu le faire, il n'était pas bien fait. Et j'ai tout enlevé et j'ai tout remis. Parce qu'il n'a pas bien fait le boulot. Et j'ai dit à mon patron, vous voyez, c'est pas bien. Et j'ai tout enlevé. Et bon, j'ai tout fait. Et le patron, il est content. Oui, il est content aussi. Bon. Et j'ai resté à faire le ménage jusqu'aujourd'hui. J'ai gardé quelques-uns, parce que sinon, c'est pas facile. Parce que pour payer mon loyer tout seul, c'est pas facile. Et j'arrive à le faire, parce que je travaille.
Mais non, mais c'est la crise, c'est le chômage en France.
Não concordo muito com isso, porque há trabalhos que os portugueses fazem que os franceses também não querem fazer.
Les portugais font le travail que les français veulent pas faire.
Sim.
Ah. C'est ça, monsieur?
Ça, c'est quoi?
Des lupas.
Tout le monde.
La famille des fèves, ça.
Ça ressemble à des gros haricots.
Camarão dos pobres.
Les camarons, les crevettes du pauvre. Tous les trois là, qui arrivaient du Portugal depuis 2 ans, 2 ans et demi,
oui.
Comment on pourrait faire un portrait de l'économie et de la situation de la vie des gens au Portugal?
Le principal, c'est les dettes, les crédits. Parce que tout le monde faisait en crédit pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour aller en vacances.
Et vous aussi?
Nous aussi. Et c'est vrai que quand j'étais mariée, on avait un appartement, on a fait en crédit. Parce que l'État, ils ont donné des facilités à tout le monde pour acheter. Et tout le monde, à ce moment, ils ont des dettes. C'est la raison, parce qu'avant, les gens, ils partaient pour avoir une vie meilleure. Là, c'est pour payer les dettes.
Sim, foi o mercado imobiliário e a banca que originou esta crise.
Porque depois... C'est les marchés financiers, les spéculations immobilières et les banques qui ont provoqué cette crise.
Todos nós falamos e sabe-se, todos os dias é discutido na televisão.
Tout ça, on le sait, on a parlé à la télé, on en entend tous parler.
As pessoas sabem o que é que se passa, mas.
Ils savent ce qui se passe.
Mas não conseguem pôr um ponto final na história.
On n'arrive pas à mettre un point final à cette histoire. Et la dette continue à dicter la vie des Portugais. C'est pour ça que vous, entre autres, les uns et les autres, vous êtes ici maintenant en France.
Oui, en fait.
É difícil de arranjar trabalho, não se arranja como se arranjava antigamente.
Exactement, il y a beaucoup de Portugais qui pensent qu'il suffit de quitter le Portugal et puis de venir en France et que ça y est, c'est facile, ils vont trouver du logement et un travail. C'est pas vrai, c'est très difficile. Parce que moi, par exemple, je travaille dans un Carrefour Market. Ça fait 2 ans que je suis en France et j'ai pas encore réussi à mettre de l'argent de côté, quoi. Avec ce que je gagne, payer un loyer, payer l'assurance de la voiture, etc.
Est-ce que la vie aujourd'hui en France difficile, par temps de chômage, est-ce qu'elle est plus facile que la vie au Portugal aujourd'hui?
Oui.
Ah oui, c'est toujours plus facile ici.
Oui.
Et c'est pour ça que je ne m'imagine pas à retourner là-bas, à vivre comme je vivais avant. 2,50 €, non, je n'imagine pas.
Acho que há uma exploração tremenda, porque os patrões, com a crise que está, dão-se ao luxo de pagar o mínimo dos mínimos aos empregados, não é?
Avec la crise, les patrons peuvent payer au minimum du minimum les salariés et on tire les salaires vers le bas.
Sim, e mesmo que o trabalhador não queira e diga que é pouco, ele diz, podes ir embora porque há ali 50 que querem o lugar.
Et c'est toujours la même réponse. Si tu n'es pas content, il y en a 50 qui sont prêts à prendre le boulot que tu as.
C'est ça.
Ici aussi en France, bien entendu, il y a la crise, c'est vrai. Mais on arrive, on s'en sort mieux que là-bas. Ici, on s'en sort mieux que là-bas, ça c'est vrai.
Mais alors, comment ça va se passer, votre pays? Est-ce qu'il ne va pas se vider si tous les gens comme vous s'en vont?
Bah si, justement, il va finir par se vider parce que les gens qui partent, ne peuvent, même s'ils veulent revenir, ils ne peuvent pas revenir parce que le pays n'offre pas les moyens ni les conditions de pouvoir survivre.
Très bien. Bah, muito obrigado et puis bonne chance pour la suite. Alors.
Merci beaucoup.
Plein de travail.
Merci, j'ai toujours.
Avec son marteau piqueur, il creuse le sillon de la route de demain. Il y met du cœur, le soleil et le gel sont écrits sur ses mains. Le Portugais dans son ciré tout rouge qui ressemble à un épouvantail. Il est arrivé à la gare d'Austerlitz, voilà 2 ans déjà. Ils font faire des voyages, ils font faire du chemin. Ce n'est plus dans son village qu'on veut gagner son pain. De son toit, de sa ville, à 500 lieues vers le nord, le soir dans un bidonville, le Portugais.
Les petits vieux qui sont là-bas, qui ont leur retraite, qui n'arrêtent pas de diminuer. La santé, c'est une misère aussi, c'est même pas la peine d'en parler. Ils sont en train de crever petit à petit. Qui sait qui va rester là-bas? Plus personne. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Donc ça finit par se dépeupler petit à petit, en fin de compte.
J'entends parler portugais dans les échafaudages. C'est normal, puisque c'est la suite de notre reportage au Portugal sur les conséquences sociales des politiques d'austérité. Sauf que je ne suis pas au Portugal. Je suis à Paris. Paris, 16e arrondissement. Le quartier chic et résidentiel. À juste un jet de pierre de la maison de la radio. C'est là où je dois retrouver Elisabeth. Bonjour, je suis devant le 76 là.
Voilà, je vous ouvre.
Merci. super chic comme entrée. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va, entrez.
Merci.
Dans ma maison de poupée. C'est comme ça que je l'appelle.
La maison de poupée ?
Ouais.
C'est ça, c'est la loge. Hein,
c'est mais... ça, exactement, c'est la loge. J'attends le courrier là, et puis éventuellement bon, bah, quelqu'un qui entre ou qui arrive.
Je vais attendre le courrier avec vous et puis je vais m'installer.
Okay. Allez.
Sensation de déjà-vu, déjà-vécu avec Elisabeth, pour qui l'histoire de la migration familiale se répète. Elle avait cru au retour au pays des parents, au pays des vacances, faire sa vie au Portugal, se marier, y avoir des enfants, acheter une maison, s'endetter. Mais rattrapée par la crise, c'est la rechute et l'exil à nouveau. Pas juste pour une vie meilleure, mais pour travailler, pour pouvoir payer ses dettes. Rencontre avec une femme qui est retournée dans la loge de la concierge.
Il y a 50 appartements et il y a autant de chambres de service là-haut.
Ah oui, parce que c'était vraiment les chambres de bonne, c'était vraiment les grands appartements bourgeois fin 19e siècle.
Exactement.
Et vous, vous êtes née en France en fait ?
Alors moi je suis née à Neuilly-sur-Seine, fille d'émigrés portugais. Papa est venu à l'âge de 17 ans à Salto, comme on dit, à pied. Et ma mère a été gardienne toute sa vie. Papa a travaillé dans des entreprises de nettoyage et est devenu ensuite chef d'équipe.
Eux, ils sont venus dans les années 60 ?
60, tout à fait. Papa était dans un village où, dans les années 60, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Quoi. Lui, il n'avait rien à perdre quand il a émigré.
Ouais.
Moi, c'était pas pour ne pas tout perdre.
Parce qu'en fait, vous, vous êtes reparti au pays.
Retour aux origines. Maman y était déjà, mon frère y était aussi. Je savais qu'on ne gagnait pas grand-chose au Portugal, hein, mais j'ai toujours travaillé. J'ai toujours fait un peu de tout. J'ai commencé à la Redoute. Ensuite, j'ai été vendeuse informatique. J'ai été standardiste. J'ai toujours fait un petit peu de tout. Toujours du travail précaire. Mais je trouvais toujours. Voilà. Et puis, au long des années, j'ai senti qu'effectivement, on trouvait moins de travail. Les choses commençaient à fermer. J'ai senti vraiment le déclin. Et mon mari...
Ça frappe à la porte.
Pendant que je suis là, je préfère vous voir que de vous voir sur Facebook.
Mais vous partiez, Marie-Laure, là ?
Non, je vais à la pharmacie faire des courses parce que j'ai cassé mes lunettes.
Ah !
Alors je vais en acheter une autre paire.
D'accord. Bah écoutez, passez quand vous souhaitez. Bon, mon mari, il a une entreprise dans le bâtiment, mais plutôt tout ce qui est intérieur. Une petite entreprise. Excusez-moi, ouais. On frappe.
Bah, c'est le boulot, hein.
Bah alors, ouais, ok, c'est pour qui ? Je suis pas au courant, moi. Elle est là ?
Je sais pas.
Eh ben, c'est super. Et puis, il a commencé, des bons clients qui ont commencé à ne plus pouvoir le payer. Donc, du coup, il s'est retrouvé presque avec 50 000 euros de dette. Et il est venu, lui.
Trouver du boulot en France, comme le font beaucoup d'hommes qui travaillent dans les chantiers.
C'est ça, il est venu faire des travaux dans cette loge. Et il m'a dit, envoie ta candidature.
Et c'était le même boulot que faisait votre maman ?
Ouais. Ouais. Et vous savez ce que disait souvent mon père ? Quand j'étais ado et que, bon, j'étais un peu feignasse à l'école. Et il me disait, étudie Elisabeth. Parce que tu sais, moi, je suis partie de rien. Je ne pouvais que monter. Mais vous, vous pouvez aussi bien monter encore plus que vous pouvez redescendre. Et ben, c'est pratiquement ça. Et mon mari...
Ah, je vous ai fait signer le téléphone, c'est ça ?
Ouais, mais pas la vie.
Pas la vie, je ne vais pas donner à recommander, je vais vous arrêter les travaux.
On n'est pas dans le même contexte que dans les années 60, on a tout. Maintenant, on a tout. Donc, il est quand même aberrant qu'on doive émigrer pour pouvoir manger. Ça, c'est carrément aberrant.
Mais c'est ça qui vous arrive.
Ah, mais c'est complètement ça. Et là, je suis en France pour subvenir aux besoins de mes enfants, pour donner de l'éducation à mes enfants et pour payer notre maison qui est là-bas. C'était tout ce qu'on demandait, manger et payer nos factures. On n'arrive plus à payer une mensualité, la maison vous est saisie, alors vous vous retrouvez sans travail, sans maison, il n'y a pas de renégociation possible. On est vu comme des mauvais payeurs, comme des je sais pas, je sais pas. C'est un pays qui est complètement sourd. Ils n'entendent pas, ils ne veulent pas voir. Donc ils disent amen à tout ce qui se passe, ce qui vient de la Troïka. Et voilà, ils disent amen à tout, sans nous défendre. Je pense que c'est ce qui fait qu'on en soit arrivé là.
Et le pays est pris comme un exemple de bon élève des politiques d'austérité de la Troïka, qui d'ailleurs s'est retiré du Portugal. Et d'ailleurs, le Portugal a déjà annoncé qu'il allait rembourser en avance ses prêts au FMI comme gage d'efficacité.
Oui, mais à quel prix ? Est-ce que vraiment ça a fonctionné ? Ça n'a pas fonctionné. Vous n'allez pas me dire, c'est un pays fantôme ? Un pays qui laisse mourir ses habitants faute de soins ? On en est là. Vous allez là-bas, c'est un désert, hein. Quel est l'avenir de ce pays ? C'est pas possible.
L'immigration en provenance de l'Europe du Sud est en train de repartir. C'est le cas en particulier des ressortissants du Portugal et la tendance s'accentue, semble-t-il, depuis 2 ans.
Et puis c'est devenu... Tu dis bonjour, chaton ? Bah t'as l'air de voir.
C'est le grand retour des Portugais en France. Face à la crise, ils fuient leur pays et viennent par milliers dans l'Hexagone.
1/10 de la population a l'intention de quitter le pays, c'est 1 million de personnes. Mais ce qui inquiète surtout, c'est le départ des jeunes, la première génération hautement qualifiée.
C'est un phénomène de société avec des conséquences très importantes pour le Portugal et des conséquences très importantes pour la France. Pourquoi pour le Portugal ? Parce que le Portugal est en train de livrer aux pays plus riches du centre et du nord, clé à main, une main-d'œuvre qui est toute prête pour travailler. Mais au niveau des salariés européens, c'est catastrophique parce que nous sommes en train d'assister à la mise en concurrence des salariés entre eux. Donc ce qu'on assiste finalement, c'est que c'est une harmonisation par le bas. On prendra les mieux offrants. Et les mieux offrants en matière de salariés, ce sont ceux qui acceptent de travailler pour moins d'argent.
Stina Semblano, je vous retrouve pour parler du regard critique que vous avez sur cette histoire-là, parce que vous êtes économiste.
Oui, j'enseigne l'économie portugaise à l'Université de Paris 4.
Et justement, Cristina Semblano, pourquoi les Français ont-ils intérêt à s'intéresser à ce qui est fait au Portugal ?
Ils ont intérêt à s'intéresser parce que ce sont les mêmes politiques qui sont en train d'être appliquées en France. L'ampleur n'est pas la même, la dimension de la France, deuxième économie de la zone euro, n'est pas du tout la même que celle du Portugal ou de la Grèce, qui sont des pays périphériques.
Mais pourtant, on applique les mêmes politiques.
La France est dans une période pré-troïka. Quelle est la politique de la France ? Dans le dernier pacte de stabilité et de croissance, on prévoit 50 milliards d'euros d'économie sur 3 ans. Donc on va réduire les dépenses publiques. Regardez toutes les coupes qui sont faites au niveau des hôpitaux et de la santé en France. Au Portugal, on en a fait tellement que le système de santé est en rupture, que les gens meurent dans les urgences parce qu'il n'y a pas de lit, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Donc, on est en train de vendre les biens publics, on est en train de vendre les services publics, on est en train de précariser le travail, de détruire le code du travail.
C'est donc, impossible. En attendant, cette dette permet aux institutions financières de maintenir la main sur la destinée des Portugais par cette politique d'austérité.
Voilà, la dette, c'est un instrument qui vous garrotte, c'est quelque chose qui fait en sorte de vous rendre dépendant. Récemment, on a augmenté le salaire minimum au Portugal. Il était de 485 euros depuis 2010. C'est donc l'un des salaires les plus bas de l'ensemble de l'Union européenne. On l'a passé, on l'a augmenté de 15 euros. Et voilà que l'FMI disait, mais ça va mettre en péril la compétitivité de l'économie portugaise. Et quand on parle de réformes structurelles pour augmenter la compétitivité de l'économie, on parle d'une seule chose, on parle de la baisse des salaires. Je pense qu'on en est arrivé là et qu'il faut vraiment qu'on mette ça dans la tête, qu'on est en train d'aller vers des situations où on peut parler du salaire de la peur. Vous acceptez un travail en gagnant très peu, vous acceptez l'exploitation, vous acceptez les brimades, vous acceptez tout pourvu que vous ayez quelque chose. Alors moi, je dirais à la population française qu'il faut vraiment résister. Et moi, je pense que la réponse à tout ça, c'est la révolte, c'est la résistance.
Ça suffit.
Ce sont les mêmes politiques qui sont en train d'être appliquées en France.
Não me peças para engolir isto. De mudar a vida não desisto.
La prophétie de Fritz Bolkenstein, qui évoquait il y a 10 ans le plombier polonais qui viendra faire le travail du plombier français pour moins cher, s'est réalisée dans notre belle Europe. C'est le plombier portugais, le maçon portugais, l'électricien portugais qui sont mis sur les routes au nom de l'austérité. Raison de plus pour faire attention quand c'est sensiblement la même austérité qu'on veut appliquer en France pré-Troïka. La France, où arrivent les Portugais ?
Les Portugais arrivent et en France, ils pourront aller se régaler chez McDonald's. Et oui, Parce que le pays du pot-au-feu est aussi le pays d'Europe où McDonald's a le plus de succès. C'est son premier marché en Europe et le deuxième le plus rentable au monde, juste derrière les États-Unis. En Europe, McDo possède ainsi 7850 restaurants et réalise un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros. Mais en Europe comme en France, McDo ne paierait pas tous ses impôts. Le scandale LuxLeaks, vous vous en souvenez ? Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Pepsi, Ikea. Au total, 300 multinationales dont les pratiques pour échapper au fisc ont été dévoilées dans la presse mondiale. Et bien, comme elles, McDo joue à l'optimisation fiscale agressive. Et selon un rapport détaillé de trois fédérations syndicales européennes et américaines qui a été rendu public le 24 février, le géant de la restauration rapide aurait, entre 2009 et 2013, échappé à 1 milliard d'euros d'imposition. Alors avant la publication de ce rapport, appelé Unhappy Meal, le repas malheureux, les étranges pratiques de McDonald's avaient déjà été partiellement mises au jour par le magazine L'Express et par la CGT de la société McDo Ouest Parisien, qui a même déposé plainte contre X pour blanchiment de fraude fiscale. Alors pour tout comprendre, ou presque, nous avons rendez-vous avec Gilles Bompard, délégué CGT et employé de McDonald's depuis 10 ans, dans un McDo à Paris.
Découvrons ce qui se cache derrière une pièce de 2 euros chez McDonald's.
Big Mac au pays du Big Mac.
Bah écoute, je te rappelle plus tard.
Bonjour, c'est Gilles ?
Oui.
Oui, bonjour, pardon.
Bonjour.
Anaëlle. Enchantée. Ça va ?
Ouais, ça va, ça va. Hein.
C'est parti. Là, on rentre dans le McDo. Du monde, hein. Il est midi et demi. Et on va aller faire la queue.
Ils seront 7 au service ce midi pour servir tous les clients en salle. Tout le monde est posté. Tout le monde est là pour un seul but, servir le client dans des délais ultra rapides.
Là, il y a une femme qui fait les boissons, l'autre qui fait les frites.
Exactement. On a une personne qui prépare les boissons, qui est devant le poste à boissons. Elle fait couler toutes les boissons qui s'affichent sur l'écran qui est à côté d'elle. Une personne aux boissons, une personne aux frites. Donc chacun a son rôle. Le travail est décomposé en tâches simples, répétitives, ultra rapides, sous la pression du chronomètre.
Vous êtes sous pression du chronomètre.
C'est-à-dire que si vous avez 10 personnes qui vont commander sur les bornes, bah vous avez 10 commandes qui vont s'afficher en même temps sur les écrans là-bas, donc qui devront assembler chaque commande en 3 minutes 30. Au bout de 3 minutes 30, les commandes sont dans le rouge, donc il va falloir rattraper ce retard. On a le rythme cardiaque qui s'accélère, il faut aller vite, parce que bon, il y a quand même des objectifs chiffrés chaque heure à remplir. Donc vous avez des indicateurs sur tous les écrans. Au bout de 210 secondes, la commande va être dans le rouge. Bah, il va falloir accélérer pour pas que les clients qui sont en train de faire la queue patientent trop. On a des prêts à croquer, une bouteille d'eau aussi.
Une moyenne ou une grande ?
Moyenne.
Bon appétit.
Vous avez pris des frites ?
Non. J'ai pris un petit déj, mais je mange jamais McDo de toute façon.
Ah bon ?
Non.
Parce que ?
Non, je ramène ma salade à chaque fois au travail. Au bout de 10 ans d'ancienneté, on en a ras-le-bol.
€10,15
Il y a deux sauces dedans.
Pour un coin tranquille, peut-être là-haut, non ?
Ouais, là-haut, allons-y.
Bonjour. Excusez-moi, je viens vous voir, je fais un petit reportage sur McDonald's. Vous saviez que McDonald's ne paye pas tous ses impôts en France et en Europe ?
Ah bon ? Non, je savais pas.
Il y a 1 milliard d'euros qui manquent en Europe. Que McDo paye pas.
Ah oui, je savais pas.
Ah, ils se mettent bien.
Non mais genre, c'est des gangsters. Hein.
Carrément, c'est des gangsters.
1 million d'euros.
1 milliard d'euros.
Un milliard en plus. Putain.
Et ils ont pas eu de problème avec la justice.
Il y a une procédure judiciaire en cours.
Ah. Et ils vont pas payer ?
Ça dépend ce que dira la justice.
Et s'ils payent pas, bah ils vont fermer, c'est ça.
Vous avez peur que McDo ferme ?
Non, même pas. Moi, ça me dérange pas. Moi, je préfère KFC à McDo. Hein. Je sais pas qu'il y avait de la queue au KFC que je suis venu au McDo.
Vous appelez comment ?
Moi, je m'appelle Harley.
Melka.
Je vous laisse boire votre coca.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Le géant de la restauration rapide aurait fait perdre plus d'1 milliard d'euros de recettes fiscales à plusieurs pays d'Europe, dont la France.
McDonald's France a de son côté réfuté fermement ces informations.
Vous êtes délégué syndical, CGT ?
délégué syndical à la CGT, je suis représentant du personnel du comité d'entreprise depuis 2011. Et au fur et à mesure de nos actions, on a pu faire des expertises qui nous permettent aujourd'hui de dire que oui, il y a un système qui est organisé par McDonald's, et oui, c'est un système qui est extrêmement injuste pour tous les salariés et également par ricochet pour tous les contribuables français. Alors notre comité d'entreprise a déposé plainte contre X pour blanchiment de fraude fiscale il y a à peu près un an suite à un rapport d'expertise qui mettait en évidence les flux financiers dont on soupçonnait l'existence mais qui les matérialisait concrètement. Il y a eu une enquête préliminaire qui a été déclenchée en décembre 2014, une perquisition au siège de McDonald's qui a duré plus de 24 heures. L'enquête est en stand-by pour l'instant. C'est à la justice de travailler sereinement et de dire si oui ou non McDonald's doit rendre des comptes à la fois au fisc français et aussi à ses salariés. McDonald's est une multinationale, ils sont là pour maximiser leurs profits. Donc quand ils ont des systèmes qui pour eux leur paraissent légaux, c'est ce qu'ils vont appeler optimisation fiscale, forcément ils vont en profiter. S'ils peuvent payer 1,4% d'impôts sur les sociétés au Luxembourg, bah, ils ne vont pas se gêner, ils vont y aller.
Micmac au pays du Big Mac.
1,4, c'est le taux d'imposition payé par McDo Europe sur une partie de son chiffre d'affaires entre 2009 et 2013. 1,4 au lieu des 32% dont McDo aurait normalement dû s'acquitter si l'intégralité de son chiffre d'affaires réalisé en France était bien restée en France et n'avait pas été envoyée discrètement dans la minuscule filiale de McDo basée au Luxembourg. Un pays très arrangeant avec les grandes entreprises. Alors d'après le rapport Unhappy Meal, le schéma d'optimisation fiscale agressive de McDonald's est grosso modo le même que celui des multinationales qui figurent sur les listes de LuxLeaks. C'est-à-dire, grâce à la création d'une filiale au Luxembourg avec très peu d'activités et très peu de salariés, ces groupes réalisent des milliards d'euros d'économies. Amel Ketfi, secrétaire générale de la CGT Commerce, va nous aider à mieux décrypter comment McDonald's s'y prend pour économiser 1 milliard d'euros. Allez, attachez bien vos ceintures, c'est pas évident à comprendre, mais vraiment, ça vaut le coup.
Je suis Amel Ketfi, je suis secrétaire fédérale à la Fédération de Commerce et Services CGT.
Et on est venu vous voir aujourd'hui parce qu'on cherche à comprendre comment McDo s'y prend pour payer si peu d'impôts.
C'est un peu plus d'un milliard d'euros qui échappe au fisc des pays européens où McDonald's est implanté. D'après le rapport, qui concerne donc la période 2009-2013, McDonald's aurait créé une société holding au Luxembourg et parallèlement a déménagé son siège social de Londres vers la Suisse, donc à Genève, où les taux fiscaux sont beaucoup plus bas qu'en France ou au Royaume-Uni. La société holding qui est basée au Luxembourg donc, est là pour accueillir les redevances que doivent payer les franchisés au titre de la propriété intellectuelle de McDonald's. Donc, McDonald's réclame au titre du droit à l'exploitation de l'image et de l'enseigne à ses franchisés, réclame 5% du chiffre d'affaires. Ce sont ces 5% qui viennent baisser d'autant le bénéfice, qui sont donc beaucoup moins imposables, qui migrent vers le Luxembourg, où ils ont négocié avec le Luxembourg un taux de fiscalisation extrêmement bas, et ce montant donc serait de 1,4%. Voilà. Donc il y a au total pour la période 2009-2013, 3,7 milliards d'euros qui ont migré vers cette société holding au titre de la redevance pour la propriété intellectuelle.
3,7 milliards d'euros qui ont transité vers cette holding au Luxembourg, et du coup sur lesquels il y a un taux d'imposition extrêmement bas.
Oui, 1,4% qui a été négocié donc avec McDonald's.
Donc selon vous, il s'agit non pas d'une optimisation fiscale comme se défend McDonald's, mais d'une fraude fiscale.
Au vu des éléments établis par le rapport, il s'agit bien évidemment d'une évasion fiscale qui dépasse les 1 milliard d'euros pour l'Europe. Pour la France à elle seule, qui est le premier pays d'exploitation de l'enseigne, en Europe, oui, le montant serait entre 300 et 700 millions d'euros, hors pénalité. Donc si la France devait appliquer la pénalité au titre de l'évasion fiscale, ce montant dépasserait plus d'un milliard d'euros que McDonald's devrait au fisc français.
Donc potentiellement, la France peut récupérer un milliard d'euros auprès de McDonald's, ce qui permettrait de résoudre en partie le problème de la dette, par exemple.
Exactement, exactement. au même titre que toutes les évasions fiscales qui sont apparues au grand jour depuis un certain nombre de mois. Je ne comprends pas pourquoi McDonald's aurait des passe-droits. Ils doivent rendre des comptes au même titre que toute autre entreprise française ou étrangère.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
1,4%, 32%. 1,4%, 32%. Malheureusement, la direction de McDonald's, que nous avons pourtant contactée à de multiples reprises, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Néanmoins, le groupe Havas, qui s'occupe de sa communication, nous a demandé de vous faire passer un message, chers auditeurs, et de donner le point de vue officiel de McDo. Alors le voici, l'optimisation fiscale pratiquée par McDonald's est légale. Il ne s'agit pas d'évasion fiscale, mais d'optimisation fiscale. Bon, le dossier McDo est maintenant entre les mains de la Commission européenne. À suivre. Et maintenant, plein feu sur un autre géant de l'alimentation avec qui on ne parle pas de fiscalité mais de proximité.
La France est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de grandes surfaces commerciales par habitant. Triste palmarès. Les abords de nos villes en témoignent avec des zones commerciales qui se multiplient à perte de vue en engloutissant au passage des quantités d'hectares de terres agricoles. Les commerces de proximité en centre-ville en ont fait aussi les frais et dans les campagnes, un village rural sur deux aujourd'hui n'en possède plus un. Commerce de proximité. Pourtant, le 15 juin 1963, le jour de l'inauguration du premier hypermarché Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois en banlieue parisienne, c'était l'euphorie. Aujourd'hui, la grande distribution, malgré ses prix toujours plus cassés et écrasés, ne fait plus rêver. Les grands centres commerciaux périphériques font moins recettes et les grandes enseignes développent de nouvelles stratégies au contact du territoire.
Où est l'intérêt d'habiter dans un village si c'est pour qu'en plus on nous le défigure ?
Collectif Sauvons les commerces de notre territoire. Non à l'installation d'une grande surface du groupe Carrefour à Noyon. Nous, commerçants, voulons privilégier les initiatives locales en coopération et en concertation avec la population et pour le bénéfice de tous les habitants et sans menace pour l'environnement. Ah ah ! Et il y a un petit dessin avec un caddie avec des chenilles de bulldozer qui est en train de détruire ce joli petit village de Noyon, dans le sud Gironde, à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux. Alors Christophe Gillon, là on est au marché de Villandreau, on est à
3 km,
à 3 km.
De Bourg-à-Bourg, on est à 3 km à peu près.
D'accord, on est à 3 km de Noyon. Et donc vous, vous êtes donc élu au conseil municipal de Noyon. Alors comment vous voyez l'implantation de cette grande surface ou moyenne surface déjà ?
Moi je considère plus que c'est une implantation déjà de grande enseigne. Après, moyenne, grande surface, bon c'est pas une grande surface c'est sûr, parce qu'il n'y a pas possibilité d'agrandissement enfin, pour l'instant. Après, bon c'est pas ce que l'avenir nous peut nous réserver, mais... C'est une implantation déjà de la grande distribution enfin dans un village.
Tout le monde se rend compte qu'un Carrefour Market à Noyon de 600 mètres carrés, ouais. Ça va tuer le petit
Combien
commerce. 600 mètres carrés.
671 mètres carrés voilà. De bâtiment, donc ça veut dire à peu près 300-350 mètres carrés de surface de vente.
Vous, vous venez aussi au marché, vous vouliez savoir un peu ce qui se passait à Noyon, c'est ça ?
Voilà,
vous
parce que j'apprends par Villandreau qu'il se passe quelque chose à Noyon. J'interroge un élu de Noyon qui me répond « Mais arrêtez de vous prendre la tête avec ça, c'est pas fait, c'est qu'un projet. Ben, » Un projet, c'est quoi ? Si ce n'est quelque chose qu'on a envie de faire aboutir. Or, je demande à ce que l'information passe et que les Noyanais soient consultés. Parce que je suis très inquiète de quelque chose qui se fait à l'insu de la population. Voilà.
Et vous habitez vous-même à Noyon ?
J'habite à Noyon. J'ai été conseillère municipale à Noyon.
Alors vous, vous êtes pharmacien ?
Voilà.
Ici.
Ouais, moi, j'ai plus de 8 ans.
Et ça vous étonne, ce projet de supermarché ?
Villandreau avait été contacté et le maire avait refusé cette implantation, justement, pour préserver le tissu économique local. Voilà, et Carrefour perche une zone où s'implanter, on sait comment ça se passe, la grande distribution.
Dans nos petites campagnes, c'est jamais vu d'un très bon œil. On connaît bien les dangers de ça, quoi. Dans une petite zone forcément fragile, hein, une zone rurale, c'est clair que c'est une catastrophe qui s'annonce, quoi. Bien sûr. Le but, c'est de collecter un maximum de consommateurs. Et puis la finalité, ben, c'est de tuer le petit commerce de proximité. Même si Carrefour Contact se présente lui aussi comme un... Rien que le non-contact qui peut faire sourire, hein, comme un commerce de proximité, mais ça n'en a que l'apparence, bien évidemment.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, êtes-vous prêts pour la grande arnaque? Les ventes flash vont bientôt commencer. J'attends tous les caddies sur la ligne d'arrivée. À votre avis, qui sera le premier? C'est la course à la promo. Allez, en avant les excités. 3, 2, 1, 0. C'est la liquidation, la grande folie des prix canons. On a changé les étiquettes, on t'a perdu dans les rayons. Le moment de vérité, sortons la feuille des réductions. Ta carte de fidélité, de toute façon, crache le pognon.
Alors vous êtes boulanger ici à Villandreau ?
Oui. Je suis monsieur Cardoit, la boulangerie au Bon-Père à Villandreau. Voilà, ça fait 12 ans que nous sommes sur Villandreau. Tout le monde dit que c'est une grande enseigne, après il y en a qui disent que c'est une petite enseigne. Bon, on ne sait pas trop exactement ce que ça va être, quoi. Voilà. C'est pour ça que nous avons rendez-vous avec Madame Arribeil, qu'elle va nous expliquer exactement le projet qui doit se faire à Noyant. C'est sûr, bon, on s'inquiète un peu parce que bon, moi j'ai 6 employés tout à l'heure qui dit est-ce que je vais garder les 6 employés, quoi. Oui, parce que j'ai deux boulangeries, j'ai une boulangerie sur Préchac aussi. J'ai une porteuse de pain, alors qui dit porteuse de pain, bon, qui passe sur Noyant. Bon, mais les gens, les clients, ils iront peut-être au Carrefour, quoi.
Aujourd'hui, je suis content, j'ai décroché un carton à la caisse de chez Auchan. Enfin, la vie commence vraiment, j'ai été employé du mois.
Bingo.
Des belles paroles, une tape dans le dos. Sur ma paye, pas un euro. Et sur le tableau, y'a ma photo. C'est la valse des articles. J'entends le code barre, bip, le balai de la caisse automatique. C'est l'extase, la belle équipe.
Je suis là depuis 13 ans maintenant. Et sous mes fenêtres, je vais avoir une enseigne Carrefour. Je suis pas venue pour ça. Voilà.
Alors, Laurence Arribet, vous êtes maire de Noyant. Donc, il y a un projet d'installation d'une surface, hein, du groupe Carrefour, ici, qui interpelle un peu donc, et les commerçants, mais aussi les citoyens. Hein. Donc, comment ça s'articule, ces décisions ?
Noyant, c'est 1650 habitants. Quasiment aucun commerce, juste une épicerie bar-tabac. C'est un peu une hérésie, hein, quand on réfléchit un peu, et qu'il y a une forte demande pour avoir des commerces de proximité. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit pour autant on va faire venir Carrefour. Il y a un pas important à franchir. Il se trouve qu'en centre-bourg, on a un terrain qui est disponible. Et donc, ce terrain, on a eu l'idée d'en faire une zone commerciale et artisanale. À partir de ce moment-là, conjointement, on a été sollicité par le groupe Carrefour, qui cherche à mettre en place des commerces de proximité sous la forme de ce qu'on appelle les Carrefour Contact en milieu rural ou les Carrefour City en milieu urbain. On a étudié la proposition, donc c'est une surface au total de 600 mètres carrés tout compris, avec une station essence 24 heures sur 24, et qui en même temps a l'avantage de rester quelque part dans la logique du commerce de proximité. Voilà comment peut s'expliquer le cheminement d'une décision comme celle-ci. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que rien n'est encore fait. Et puis, on attend la proposition très concrète du groupe Carrefour, qui devrait arriver courant mars. Nous, personnellement, en tout cas, ça a été la grande majorité au conseil municipal, on ne veut pas de grandes surfaces. Si on continue à travailler avec Carrefour, c'est que la proposition qu'il nous faut correspond à ce qu'on imagine d'une surface commerciale en milieu rural. Le groupe Carrefour a une charte pour les franchisés qui nous semblait présenter un certain nombre de garanties. D'abord, en termes de pratique du commerce de proximité, le fait que c'était un couple qui s'installait, un engagement d'avoir des produits locaux, de favoriser les circuits courts. Alors tout cela, bien sûr, c'est une charte. Donc on sait qu'une charte entre l'écrit et puis la réalité, mais On peut considérer aussi que c'est une base pour commencer à travailler. Et si on commence à ne pas avoir confiance dès le démarrage, c'est pas la peine de continuer quoi que ce soit.
Christian Jacquiot, alors vous avez écrit « Les coulisses de la grande distribution » il y a maintenant une dizaine d'années. On voulait avoir votre avis alors sur cette grande enseigne qui vient s'installer dans ce petit village du sud de Gironde, à Noyant. Alors, les pratiques restent les mêmes parce que, bon, maintenant, ces grandes enseignes veulent se présenter comme proches, effectivement, au service, là, en l'occurrence, Carrefour, dans le cas qui nous intéresse, et le sauveur de ce petit village. Se présente comme ça, en tout cas.
Ça, c'est assez miraculeux, quand même, parce que cette grande distribution, elle a détruit complètement le commerce de proximité. C'était son objectif au départ, c'est de faire disparaître tous les commerces de proximité pour pouvoir capter les marchés. C'est ce qu'elle a fort bien fait, avec d'ailleurs des méthodes parfaitement déloyales et des concurrences déloyales, puisque je rappelle que les conditions auxquelles les hyper et supermarchés touchent les produits sont différentes de celles auxquelles les touchent les petits commerçants, les commerçants de proximité. Donc, on a effectivement, au départ, il y a eu une volonté de sortir les commerces des villes avec ces hypermarchés, donc avec des grands parkings, des pompes à essence, etc., de miser sur le tout automobile. Et puis maintenant que les commerces de proximité ont disparu, eh bien là, il y a vraiment un boulevard pour la grande distribution pour se réimplanter à une époque où les gens d'ailleurs désertent les grandes surfaces parce que ça prend du temps d'aller en grande surface, il faut une voiture, etc., c'est compliqué. Et donc finalement, les grandes surfaces reviennent au cœur de nos villes, de nos villages, où là, il y a un véritable boulevard pour eux, puisque du fait que maintenant, on peut s'installer pratiquement partout pour moins de 1000 mètres carrés. Donc évidemment, les grands distributeurs choisissent cette opportunité pour une raison simple, c'est qu'ils veulent prendre des parts de marché, mais aussi empêcher leurs concurrents, bien sûr, de s'implanter. Sachant que les points de vente ne sont pas forcément rentables, et ce n'est pas forcément non plus l'objectif poursuivi. L'objectif, c'est d'accroître le volume de marchandises distribuées et de permettre ainsi d'avoir une pression encore plus importante sur les fournisseurs et donc d'accroître, bien sûr, ce qu'on appelle les marges arrières. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'un prix bas vu par la grande distribution, eh bien, c'est un prix qui, en amont, a été vidé de ses coûts sociaux et écologiques et environnementaux. Moins on va prendre de mesures pour défendre, protéger l'environnement, c'est-à-dire peu importe si on utilise la chimie et tout ce qu'on aime bien, les herbicides, les insecticides, les OGM ou le reste, et plus on va utiliser des main-d'œuvre à bas coûts sociaux, et bien sûr, plus les marges, plus les bénéfices seront importants. Le principe, c'est bien celui-là. Comme les consommateurs n'ont plus les moyens, finalement, en tout cas, on ne peut pas faire flamber les prix parce que le pouvoir d'achat est ce qu'il est, et bien la seule variable pour gagner toujours davantage d'argent, c'est encore une fois de comprimer énormément les prix de revient en amont. Donc, impact social, sociétal et environnemental tout à fait colossal qui fait qu'on détruit toujours plus et qu'on va vers une société de plus en plus insupportable. Donc, cette grande distribution, il faut bien comprendre qu'elle a amené à la disparition du commerce, une grande partie du commerce de proximité. On a en France 36 000 communes, il y a 18 000 communes qui n'ont plus un seul commerce de proximité. On avait, au sortir de la guerre, 6 millions de paysans, il reste 300 000 agriculteurs et il en disparaît 30 000 chaque année.
Mais ce n'est peut-être pas une fatalité, la grande distribution dans nos villages. On voit fleurir un peu partout des initiatives différentes, citoyennes, les AMAP, qu'on connaît bien, mais aussi des groupements d'achats locaux innovants comme Sortir du supermarché en Aveyron ou la coopérative alimentaire à Champigny. Mais il faut y aller, il faut s'y mettre, c'est pas du tout cuit qu'on trouve en tête de gondole sur les linéaires des supermarchés.
C'était Comme un bruit qui court, une émission réalisée par Jérôme Chélius. Et à la technique aujourd'hui, c'était Fabrice Desmaz et Alexandre Chenet.
Et on se retrouve la semaine prochaine en direct du Salon du Livre pour un spécial Brésil.
Tout de suite, retrouvez Colin et Mauduit si l'Amérique m'était comptée.